Théologie biblique par Philippe, 16 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Nous serons au terme de l'histoire d'Abraham, de comprendre un peu progressivement comment la foi s'empare du cœur du Père. Je vais vous montrer la dernière fois ce grand exemple d'une prière d'intercession. Abraham qui porte cette responsabilité à l'égard de Lot et de Sodome et Gomorre et qui intercède auprès de Dieu. Cette manière à la fois très divine et très humaine. Parce qu'on retrouve là, évidemment, l'astuce d'un homme qui sait faire des contrats et qui transpose ça par rapport à Dieu. Abraham dit, « Daigne, mon Seigneur, ne pas se mettre en colère. Si je parle, peut-être, ne s'en trouvera-t-il 30 ?» Il dit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Abraham dit, « Voici que j'ose parler à mon Seigneur. » Vous voyez, tout le côté respectueux, en même temps dans l'audace. Il y a les deux, hein. Ce n'est pas uniquement l'audace, ce n'est pas du tout un aspect de camaraderie, pas ça du tout. C'est, au fond, plus il est audacieux, plus il est respectueux. Et je crois que c'est quand même ça la note qui est montrée. Il est très audacieux, il va très loin pour supplier que Dieu fasse faveur à Sodome et Gomorre. Donc, plus il est audacieux, plus en même temps il est respectueux. Daigne, mon Seigneur, ne pas se mettre en colère. Si je parle encore une fois, peut-être en trouvera-t-il 10. Il dit, je ne détruirai pas à cause des 10. Yahvé s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Mais c'est une prière de confiance. Et dans cette confiance, filia, et en même temps de serviteur à l'égard d'un maître, donc une prière religieuse, il y a les deux aspects, il y a l'aspect religieux du respect d'Abraham à l'égard de son Seigneur, et en même temps cette confiance, et c'est vraiment la foi qui vient transformer la vertu de religion dans son aspect de prière de demande. Dans une prière de demande, on expose à Dieu les désirs de son cœur. On expose à Dieu les désirs de son cœur en s'en remettant entièrement au bon plaisir de Dieu. On n'impose pas quelque chose à Dieu, mais on s'en remet au bon plaisir de Dieu. Et c'est pour ça que plus la prière de demande est audacieuse, plus il doit y avoir le respect. Mais je crois que c'est bien cela qui nous est montré ici. C'est montré sous cette forme très extraordinaire. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Dès qu'il les vit, Lot se leva pour aller à leur rencontre. Et se prosternant le visage contre terre, il dit, « De grâce, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis demain matin, vous irez votre chemin. » Ils dirent « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais il les pressa si fort qu'ils se détournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Donc l'hospitalité toujours, hier on l'a déjà vu, ici deux ans. C'est très mystérieux, les anges. C'est les envoyés. Hein. C'est les envoyés. Alors, d'une certaine manière, ils ne font pas non avec celui qui les envoie. Donc, d'une certaine manière, c'est la présence de Dieu avec eux. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, cernèrent la maison, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Il dit : Non, de grâce, mes frères, ne faites pas le mal. Voici que j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous. Il offre ses filles pour sauver l'hospitalité des envoyés de Dieu. Et pour calmer ses passions effrénées de Sodome et Gomorrhe. Voici que j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais donc les faire sortir vers vous. Traitez-les comme bon vous semble. Seulement à ces hommes ne faites rien, puisqu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit. Et dire : Tire-toi de là. En voilà un qui est venu résider comme étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils pressèrent fortement l'homme, Lot, et ils s'avancèrent pour briser la porte. Mais les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent d'aveuglement, du plus petit au plus grand, si bien qu'ils durent renoncer à trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Tes fils, tes filles, et tout ce qui est à toi dans la ville, fais-les sortir du lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car elle est grande devant Dieu, la clameur qui s'élève contre eux. Il y avait nous envoyés pour les détruire. Vous voyez, tout ce qui est montré là, je crois que c'est pour montrer que le regard de Dieu sur Lot, sur Sodome et Gomorrhe, est juste. Alors il y a cette expérience à l'égard des envoyés de Dieu. C'est pour que montrer que la miséricorde de Dieu va jusqu'au bout. S'ils avaient respecté ces deux envoyés, s'ils avaient respecté, Dieu aurait peut-être encore fait miséricorde. Mais on voit que ces deux envoyés de Dieu, ils ne les respectent même pas. Ils ne veulent pas les respecter. Alors on montre que le jugement de Dieu est juste. Il y a cela, je crois, qui est impliqué ici, hein, pour montrer tout cet aspect devant lequel on se trouve. Mais les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Tes fils, tes filles et tout ce qui est à toi dans la ville. Fais-les sortir du lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car elle est grande devant Dieu, la clameur qui s'élève contre eux. Et Yahvé nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui devaient épouser ses filles. Debout, dit-il, sortez de ce lieu, car Yahvé va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Évidemment, un beau-père n'a pas beaucoup d'autorité. Hein. Et quand monta l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur de périr dans le châtiment de la ville. Comme il s'attardait, les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles, car Yahvé voulait l'épargner. Ils le firent sortir et l'installèrent hors de la ville. Vous voyez, la rapidité dans l'ordre de l'exécution, hein, c'est une qualité. Et enfin, on voit très bien que Lot, il lambine. Il est quand même attaché à ce lieu, hein, c'est quand même habité là. Enfin. Et alors, la rapidité de Dieu pour la décision. La qualité, hein, il ne faut jamais l'oublier. Dans l'ordre de l'exécution, la qualité, c'est la rapidité. Toujours. Et on voit ça, Marie en toute hâte. Et on voit bien cela. Une fois que la chose est décidée, il faut y aller. Parce que c'est perdre du temps. Et on perd du temps. Et quand monta l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur de périr dans le châtiment. » Comme il s'attardait, les hommes saisirent sa main. Vous voyez, la parole et le geste, hein, vous voyez bien les deux aspects ici. Puisque nous devons être attentifs dans l'écriture aux deux. Et on voit très bien, le geste est de l'ordre de l'exécution. Toujours, la parole ne suffit pas. Il s'attarde. Alors les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles, car Yahvé voulait l'épargner. Ils le firent sortir et l'installèrent hors de la ville. Lors donc qu'ils les eurent fait sortir à l'extérieur, il dit « Sauve-toi sur ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans tout le district, sauve-toi à la montagne de peur de périr. » Lot leur dit « Non, je t'en prie, mon Seigneur, voici que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et c'est une grande faveur que tu as témoignée envers moi en me conservant la vie. Mais je ne puis, moi, me sauver à la montagne sans que le malheureux, sans que le malheur ne s'attache à moi et que je ne meure. Voilà cette ville assez proche pour y fuir. Et elle est peu de choses. Permet que je me sauve là-bas. N'est-elle pas peu de choses et que je vive ? Il en dit soit. Je t'accorde encore cette grâce. Je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te sauver là-bas, car je ne puis rien faire que tu ne sois entré. Voilà pourquoi on appelait la ville du nom de Soar. Le soleil sortait sur la terre quand Lot arriva à Soar. Et Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu venant de Yahvé du ciel. Il bouleversa ces villes et tout le district, ainsi que tous les habitants des villes et les germes du sol. Et les germes du sol. Très bien, vous supprimez toute vie. La mer morte, hein, symbolise la mer morte. Ça veut dire aussi, ça va assez loin, ces choses-là, vous voyez, c'est l'annonce de la guerre nucléaire, c'est juste comme ça. C'est très significatif, c'est pas uniquement détruire, c'est détruire en supprimant le point de vue de la vie. La femme de Lot regarda en arrière, la curiosité, elle devint comme une colonne de sel. Alors n'oubliez pas, Sodome et Gomorre sont des symboles de la purification dernière que les hommes auront au moment du jugement dernier. A toujours été considéré comme ça par les pères de l'Église. Et il faut partir, vous voyez, sans regarder en arrière. Hein, c'est significatif. Jésus dit, celui qui l'appelle n'a pas le temps de regarder en arrière. Il n'a pas le droit de regarder en arrière. C'est comme quelque chose qu'on voit constamment. Et je crois que ça, c'est de l'ordre de l'exécution. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. On ne revient plus dessus. C'est contraire à l'amour. Alors, on doit avancer. Évidemment, c'est rude, hein, parce que ça exige de supprimer tout le retour par rapport aux oignons d'Égypte. Hein. Parce que les oignons d'Égypte, ça, c'est la réminiscence, le retour en arrière. Alors, c'est intérieur, vous voyez, et en fond, Dieu n'aime pas ça. toujours. Dieu n'aime pas cette espèce de retour en arrière, parce que l'Esprit Saint n'est jamais en arrière, toujours devant. Toujours. Et quand on se met dans la perspective du retour en arrière, ça ne va plus. C'est un frein, ça arrête. Il faut avoir ce regard toujours, toujours positif en avant. Abraham se leva de grand matin et vint au lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Il regarda du côté de Sodome et Gomorre et vers tout le pays du district. Et voici qu'il vit monter la fumée de la terre comme la fumée d'une fournaise. Vous voyez, le gros champignon qui monte. Hein, c'est tout à fait ça. Ainsi, quand Dieu détruisit les villes du district, Dieu se souvint d'Abraham. Il retira Lot du milieu du bouleversement, quand il bouleversa les villes où habitait Lot. Montrer l'efficacité de la prière d'Abraham. Dieu épargne Lot à cause de la prière d'Abraham. Dieu se souvint d'Abraham. Il retire Lot du milieu du bouleversement. C'est ce lien d'Abraham avec Lot qui est comme une préservation, une miséricorde de Dieu. Alors c'est un très grand exemple de la justice. De la justice de Dieu. Par rapport à ceux qui n'acceptent pas la correction, par rapport à ceux qui s'enferment volontairement dans le mal, par orgueil, parce qu'on ne s'enferme dans le mal que par orgueil. Ici, il s'agit évidemment de la concupiscence, c'est bien évident, et une concupiscence assez effrénée, d'après ce qu'il nous a montré dans le texte, c'est bien évident. Mais ce n'est pas tellement la concupiscence, vous voyez, c'est beaucoup plus l'endurcissement du cœur. Et c'est cette volonté de ne pas changer. Lot monta de Soar et habita dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur d'habiter à Soar. Il habita dans une grotte, lui et ses deux filles. Vous voyez, sa volonté propre, ça ne dure pas. Hein. C'est aussi ça qu'on veut souligner. La volonté de Dieu était bien plus efficace et beaucoup plus vraie. Et Dieu voulait qu'il aille dans la montagne. C'est les ermites. Avec ses deux filles, car il avait peur d'habiter à Soar. Il habita dans une grotte, lui et ses deux filles. On quitte Sodome et Gomorre pour aller dans un lieu qui est la montagne, qui est un lieu de prière, un lieu de solitude. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. Une décision de l'aîné, hein, c'est l'aîné ça. L'aîné a toujours de mauvaises idées. Hein. Alors c'est ça. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. Ainsi, par notre Père, nous donnerons vie à une descendance. Elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là. Alors, depuis l'ivresse de Noé, on n'a pas parlé d'autre ivresse. Hein. C'est pas tout à fait la même ici. Elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là. Et l'aîné vint coucher avec son Père, sans qu'il s'aperçût ni du coucher de sa fille, ni de son lever. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « Voici que j'ai couché hier avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui. Ainsi, par notre père, nous donnerons vie à une descendance. » Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père et la cadette se leva et coucha avec lui, sans qu'il s'aperçût ni du coucher de sa fille ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites qui existe jusqu'à ce jour. La cadette aussi enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amnon qui existe jusqu'à ce jour. Alors voyez, cette chose très curieuse, hein, c'est très intéressant au point de vue théologique de voir ça. La loi de la descendance, plus forte que tout. Plus forte que tout, du point de vue moral. Évidemment, on ne dit pas si Dieu bénit ou si Dieu ne bénit pas. On aimerait bien savoir ça. C'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Alors on met en note, hein, Perostim et Moab, expliqué par assonance avec Mehab, issu du Père, suggéré par Mehabin, par notre Père. Et les Moabites à l'est de la mer morte. Et puis Ben-Ami, fils de mes parents, explique le Béné Ammon, les fils d'Ammon, c'est-à-dire les Ammonites établis au nord-est de la mer morte, autour de Rabba, les fils d'Ammon. Ça reste mystérieux, hein, du point de vue théologique. Je crois que ce qui nous est montré, hein, c'est cette espèce, parce qu'il y a de fait, hein, il y a des lois, mais ça ne va jamais jusque-là. Donc c'est le cas extrême. C'est le cas extrême de l'exigence de la descendance, de l'exigence de la fécondité, au-delà de toute morale. Pose un très beau problème, ça, d'un point de vue théologique. C'est très vrai, ça pose un problème très très extraordinaire au point de vue proprement moral. Alors, je vous dis, on voit très bien, les Moabites ne sont pas précisément bénis. Non. Et les fils d'Ammon non plus, tous les deux autour de la mer morte. Et la famille de Lot était préservée, ils n'étaient pas tombés dans les vices de Sodome et Gomorrhe. Ses filles étaient honnêtes, des filles morales. C'est bien évident. Leurs gendres, hein, le père avait choisi des gendres, les gendres n'ont pas écouté le beau-père. Ils ont mieux passé à la casserole, n'est-ce pas, que de suivre. Et ils sont passés, c'est évident. Ils ont eu l'incendie du soufre, ils sont passés avec tous les autres. Et là, cette chose mystérieuse. C'est comme ça, et c'est ça qui est très important dans la Genèse. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Genèse. Parce que la Genèse nous met devant des cas extrêmes. Et alors, au point de vue théologique, c'est toujours très très beau, très très grand. Parce que ça nous fait découvrir quelque chose, là. On essaiera de découvrir, je continue. Abraham partit de là pour le pays de Negev. C'est pas Abraham, hein, c'est Lot. Donc c'est quelque chose de particulier. Alors, l'enclave, si vous voulez, parce que c'est vraiment l'histoire d'Abraham qu'on raconte. L'histoire de Lot, c'est à côté. Il est lié, c'est des cousins. Ça fait partie de la parenté, mais c'est pas ça qui intéresse directement le point de vue de la Genèse. Abraham partit de là pour le pays du Négueb. Il habita entre Kadesh et Shur. Puis il résida à Guérar. Comme Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur », Abimélec, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Mais Dieu vint vers Abimélec dans un songe la nuit et lui dit, « Voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, « Mon Seigneur, est-ce que tu vas tuer même des gens qui sont justes ? Celui-là n'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur ?» Et elle-même a dit, « C'est mon frère. » C'est d'un cœur intègre et les mains innocentes que j'ai fait cela. Dieu lui dit dans un songe, « Moi aussi, je sais que c'est d'un cœur intègre que tu as fait cela. Et c'est moi aussi qui t'ai retenu de pécher contre moi. Voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras sûrement, toi et tous les tiens. Alors voyez ce passage, hein, ça pose des tas de problèmes pour les exégètes. Je comprends, parce que quand vous regardez ce passage, évidemment c'est une réplique du passage d'Abraham en Égypte. C'est tout à fait la même chose. Alors ça pose toujours des tas de problèmes. Deux traditions qui devaient exister, hein, puisqu'il est évident que ça a été écrit plus tard. Il y a des traditions qui ont été écrites ensuite. Deux traditions par rapport à Abraham, l'une l'Égypte et l'autre Abimélec. Alors, est-ce que de fait, c'est vraiment deux histoires différentes ou simplement deux traditions d'une même histoire? Vous voyez comment se pose le problème, hein, vous n'avez qu'à revoir. Hein. Alors on dit, le père Hostie dit ça toujours très bien, récit du document éloïste parallèle à celui du yaviste en chapitre 12. Alors ça c'est propre de voir les deux traditions, la tradition éloïste et la tradition yaviste. Venez, posez-vous la question, quand on dit ça, quel est le genre d'interrogation sur l'écriture? C'est ça qu'il faut se poser. Moi, on est théologien, n'est-ce pas? Que les exégètes fassent ça, c'est leur métier. C'est très bien. Ils doivent le faire. Ils doivent essayer de saisir la structure de ces deux récits. On voit très bien, il y a un parallélisme rigoureux entre les deux. Hein. Parce que c'est gênant, chapitre 20, d'une certaine manière, hein, qu'Abraham n'ait pas encore corrigé ce petit défaut. Au début, je comprends très bien. Chapitre 12, je comprends très bien. Chapitre 20, c'est un peu plus gênant. Quand même, hein, il a une petite connaissance un peu plus sérieuse du Seigneur. Et puis que ça se revienne, hein, encore une fois. Ben, je sais bien que les péchés, c'est comme ça. Hein, c'est des ornières, ça revient indéfiniment. Les péchés de 20 ans, les péchés de 40 ans, les péchés de 70 ans. Hein, c'est curieux, ça. Hein. C'est très intéressant, ça aussi. Alors, je me pose la question, vous voyez, parce que ça, c'est constant. C'est connu. Tous ceux qui ont fait un peu de l'exégèse de l'Ancien Testament, vous n'en avez pas fait beaucoup ici, mais vous en ferez quand même. Alors, il y a des petites clés, hein, on voit très bien. On voit les documents. Du reste, c'est facile à découvrir. Avec quelqu'un comme le Père Hostie, on n'a qu'à lire ça, être attentif à ça. Quand vous lisez le Père Hostie, soyez attentif à ça. Et faites deux Bibles, deux Genèses. La Genèse du document yaviste, la genèse du document éloïste. Vous avez deux genèses. Oui, c'est intéressant à faire ça, hein, parce qu'on a les deux documents, les deux sources. On voit très bien ce que ça veut dire, les deux sources. Les traditions, elles dépendent de deux sources, et qu'on dira exactement, là on prend deux étiquettes yaviste. C'est ce qu'on a fait pour le récit de la genèse. Dès le début, on fait tout de suite ça. Ce qu'on fait ensuite, en voyant qu'il y a des... Pour les évangiles, il y a des courants différents, des prédications différentes. Vous voyez, je prends l'exemple, par exemple, hein, la communauté Saint-Jean commence à prêcher, alors il y a des légendes qui se font, il y a des têtes particulières. Le courant Marie-Pierre, le courant... vous voyez, alors il y a d'autres choses. Hein. Alors, et alors on dit, voilà, et on se met à reconstruire les cons, c'est tout à fait normal. Et ça se fait très vite, ça, très très vite. C'est toujours intéressant de voir ça, c'est toujours très curieux de voir ça. Alors il y a des gens qui aiment de mettre les oppositions, il y a des gens qui aiment de mettre au contraire l'unité. Partout, c'est comme ça. Alors, l'Esprit Saint, un beau jour, a réuni ses ressources. Bien évident. Il nous a donné ce texte. Ce texte, l'Église le considère comme inspiré. Alors, il y a deux manières de lire l'Écriture, vous voyez. Là, je prends ça parce que là, c'est typique cet exemple. Hein. C'est très typique. Et comme il est inoffensif, pas de passion. Quand c'est les textes plus importants, les passions s'y mêlent. Mais ici, il n'y a pas de passion, aucune. Aucune passion. Abraham, c'est loin. Deux manières de lire l'Écriture. La manière de chercher les sources. C'est-à-dire de trouver dans l'Écriture ce qui a composé l'Écriture. Souci historique, souci archéologique, souci de remonter à la source. Une autre manière de lire l'Écriture, ce que nous faisons ensemble, la finalité. Je dis, l'Écriture m'est donnée. Pourquoi ? Pour le croyant. En premier lieu. L'Écriture n'est pas donnée en premier lieu pour l'homme historien qui est en moi. L'Écriture n'est pas donnée en premier lieu pour l'archéologue qui est en moi. L'Écriture n'est pas donnée en premier lieu pour le philologue qui est en moi. Si je suis... L'Écriture n'est pas donnée en premier lieu pour le philologue qui est en moi. Si je suis philologue, si je suis archéologue, si je suis historien. L'Écriture est donnée en premier lieu pour le croyant. Ça, c'est sûr. Et les pères de l'Église ont compris comme cela. Alors, pour les pères de l'Église, pas de problème, parce qu'il n'y avait pas encore de philologue, d'historien, d'archéologue. Alors, ils étaient les seuls. Donc, c'était magnifique. C'est magnifique. Exactement comme la philosophie quand la science n'existait pas. Vous comprenez ? Elle était la seule science. C'est des problèmes parallèles. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est des problèmes parallèles. Alors, la science exégétique s'est développée. Et vous savez comment elle s'est développée ? Elle s'est développée d'abord dans un aspect rationaliste d'opposition vis-à-vis de l'Écriture. Elle s'est développée vraiment chez des historiens qui ne croyaient pas et qui voulaient montrer que l'Écriture c'était de la futaise et qu'il y avait des contradictions constantes dans l'Écriture. Là-dessus s'est développée l'école de biblique, puis l'école de Jérusalem, puis l'école d'abord de Jérusalem, puis l'école de Rome, puisque les dominicains ont un primat sur les jésuites. Là. Alors, il faut quand même, ça arrive rarement, mais là il y en a. Alors, du côté de l'Écriture, ils ont le primat. L'école de Jérusalem a été ouverte avant. Et c'est très intéressant de voir que l'école de Jérusalem a été fondée en premier lieu pour répondre à la critique historique rationnelle dans une perspective apologétique. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça c'est de l'histoire. Et c'est intéressant, parce que ça fait partie de ce que nous vivons aujourd'hui, pour que nous comprenions ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça a été fait pour cela. Puis petit à petit, cette exégèse s'est imposée elle-même. Et vous voyez qu'au point de départ, c'était pour répondre et pour montrer que dans l'Écriture, ce qui était dit était historique, qu'il y avait des données historiques de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Et c'était tout à fait faux de dire que c'était des récits qui n'avaient pas de fondement historique. C'est pour montrer le fondement historique. Donc c'était d'un point de vue apologétique. Puis petit à petit, ça s'est imposé comme une méthode exégétique du texte, ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, Dieu se sert de tout, c'est bien évident. Il se sert du Philistin pour réveiller. Il s'est servi des rationalistes qui voulait montrer que l'Écriture n'était pas historique pour réveiller les chrétiens, pour réveiller les croyants. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a un ordre. L'étude historique, archéologique de l'Écriture, c'est très bien, ce n'est pas mauvais, c'est intéressant, c'est une connaissance du texte. Mais il ne faut pas que cela supprime l'autre lecture, qui est la lecture par le point de vue de la cause finale. Pourquoi l'Écriture nous est-elle donnée ? Il faut toujours dire aux fidèles, s'ils ont le temps de faire de l'exégèse, très bien. Les prêtres doivent en faire. Les religieux doivent en faire. L'Église demande. Et on comprend très bien pourquoi. C'est pouvoir répondre aux objections. Il faut pouvoir répondre aux objections. On doit toujours être capable de justifier sa foi. Mais il ne faut pas que cette exégèse supprime l'autre lecture. Oui, et c'est, je crois, la grande leçon que nous donne le pape actuellement. De ne pas hésiter de revenir à la Genèse, de ne pas hésiter de faire une exégèse à la manière des pères de l'Église. Et non pas du tout à la manière scientifique d'aujourd'hui. Parce que la manière scientifique d'aujourd'hui est très bonne, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas celle qui doit être exhaustive de la parole de Dieu. Elle est uniquement un élément pour répondre aux objections qu'on pourra faire. Elle ne nourrit pas directement, tandis qu'au contraire, lire l'Écriture par le point de vue de la finalité, je crois que là nous entrons dans l'intention profonde de l'Esprit-Saint. Si vous lisez l'Écriture uniquement d'un point de vue historique, vous êtes avant tout attentif aux personnages humains, aux instruments, au contexte historique, au contexte archéologique. C'est normal, ça ne peut pas être autrement, puisque c'est ça que vous regardez. Si vous lisez l'Écriture dans une perspective, alors qui doit être celle de l'Esprit-Saint, vous essayez d'entrer dans l'intention de l'Esprit-Saint. Vous avez donc diverses lectures de l'Écriture. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons diverses lectures de l'Écriture. Et il faut toujours bien préciser. Je vous lis l'Écriture en archéologue, en exégète scientifique, en historien, en philologue. Je vous lis l'Écriture d'une façon, au contraire, spirituelle, en essayant de faire une théologie biblique, non plus simplement de l'exégèse, mais une théologie biblique. Et qui dit théologie biblique veut un regard de sagesse. Et donc veut essayer de comprendre comment Dieu progressivement nous montre la grandeur de la foi. Alors vous voyez, si je me place dans cette attitude seconde, cette attitude première, si vous voulez, qui consiste à regarder le point de vue de la finalité, je reçois le texte tel qu'il m'est donné. Je sais très bien, et je dois le savoir, ce que les historiens peuvent dire, ce que les archéologues peuvent dire, je le sais. Mais je reçois le texte tel qu'il est gardé par l'Église. Je n'ai pas la petite paire de ciseaux qui coupe et qui met les parallèles en voyant les choses, les deux documents. J'étudie le texte tel qu'il m'est donné par l'Église. L'Église me donne ce texte. Et c'est vrai, tant que l'Église n'a pas changé. N'oublions pas ce que le Saint-Père a dit récemment à toute la réunion des grands exégètes de l'Église. L'exégèse, les études exégétiques, ne nous donnent jamais la norme de notre foi. La norme de notre foi, c'est l'enseignement actuel de l'Église. Les exégètes me donnent des opinions intéressantes, mais les exégètes ne me donnent pas la norme de la foi. Donc je suis très libre au point de vue de la foi. Je suis très libre. Jamais une conclusion exégétique va forcer ma foi. Jamais. Parce que les conclusions exégétiques de la science exégétique, historique, archéologique et philologique, ne donnent pas la norme de la foi. La norme de la foi, c'est comment l'Écriture est gardée par l'Église. Tant que l'Église ne modifie pas l'ordre des chapitres de la Genèse, tant que l'Église ne modifie pas l'ordre des chapitres de l'Évangile de Saint Jean, je lis l'Évangile de Saint Jean tel qu'il m'est donné. Je lis la Genèse telle qu'elle m'est donnée. Et j'essaie de comprendre. Là, vous voyez ce chapitre 20, hein, je sais très bien que c'est parallèle. Je le reçois du côté finalité. L'Esprit Saint est quand même intelligent. S'il veut assumer deux courants, deux espèces de documents, c'est parce qu'il veut que je comprenne mieux. Nous l'avions déjà vu pour les chapitres du début de la Genèse. je vous ai dit, si de fait il y a deux récits de la création, l'un qui est par le point de vue de la parole, l'autre qui est par le point de vue du geste, c'est parce que nous avons besoin de la parole et du geste pour comprendre le mystère de la création. Je ne peux pas comprendre le mystère de la création uniquement par le point de vue de la parole. Et je dois comprendre aussi le point de vue du geste. Si, dans l'histoire d'Abraham, je vois ces deux traditions, la tradition yaviste, la tradition éloïste. La tradition éloïste étant normalement plus ancienne. La tradition yaviste venant après. La tradition yaviste, c'est celle des prêtres. La tradition éloïste, c'est celle plus générale, moins précise. Si l'Esprit Saint a voulu rassembler ces deux traditions, il y a une raison. Il a voulu assumer les deux. Donc, les deux doivent m'apporter quelque chose. Je ne peux pas réduire en disant « je vais laisser tomber ». Non, je crois que je n'ai pas le droit. Les deux doivent apporter quelque chose. Alors, je fais attention au point de vue historique. Après tout, ce n'est pas tellement le point de vue historique qui m'est donné en premier lieu. Ce n'est pas pour cela qu'en premier lieu m'est donné l'histoire d'Abraham. C'est historique, c'est sûr. Mais c'est pour me faire comprendre la foi d'Abraham. C'est cela l'intérêt. C'est de comprendre comment Abraham est le père dans la foi. Et c'est de comprendre comment la foi s'insère dans le cœur de ce père, dans le cœur de cet homme. Dans cette culture de cette époque, dans ce milieu de cette époque. C'est ça qui est donné. La Bible n'est pas premièrement un livre historique. Elle est premièrement une révélation qui me donne la vérité sur le cœur de l'homme, qui me donne la vérité sur le croyant, qui me donne la vérité sur l'homme sauvé par le Christ et qui me fait entrer dans le mystère du peuple d'Israël conduit par Dieu, le Messie et l'Église dans son point de départ et son terme. C'est ça qui est très extraordinaire. Alors, il y a bien un thème historique, le thème historique est présent, mais le thème historique n'est pas premier. Pas premier, c'est un témoignage au niveau de la foi. Et c'est ce témoignage au niveau de la foi que je dois comprendre. Alors une fois que je me place de cette manière-là, vous comprenez que ce n'est plus tout à fait la même chose. Au fond, ce chapitre 20, je l'accepte comme le chapitre comme il est là, pour me redire quelque chose d'autre par rapport au cœur d'Abraham. Comme c'est difficile que la foi, qui est le levain, arrive à transformer la pâte humaine. C'est peut-être ça, après tout, la signification de cette reprise-là. Abraham est un homme merveilleux. C'est un homme qui a un sens de Dieu étonnant. Il est justifié dans la foi. Et cependant, comme c'est difficile, que la lumière de Dieu arrive jusqu'au bout. Vous voyez, si je le prends d'un point de vue purement historique, là, il y a une vérité qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors que si j'essaie de comprendre profondément, je me dis, l'Esprit Saint aime de nous donner deux courants. Pourquoi ? Parce que nous avons de la peine à comprendre. Et nous avons besoin que les choses soient redites. Il n'y a que la Vierge Marie qui n'a pas besoin que les choses soient redites. Mais nous, à cause des conséquences du péché, nous avons besoin que les choses soient redites. Et quelquefois, soient redites d'une petite modalité différente, vous voyez, pour qu'on comprenne mieux la parole et le geste.